Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Coron les ait peints? Non!
Darling, I adore your work. I just adore your work. I adore it.
Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est des mots qui font écran. Un écran où se projettent des imaginaires plus ou moins avouables. Un écran qui s'interpose aussi parfois entre les images et nous. Ainsi par exemple du mot d'orientalisme. Lorsque Eugène Delacroix peint les femmes d'Alger dans leur appartement en 1834, est-il un peintre orientaliste? Apparemment, tous les ingrédients sont rassemblés. Bibelots sonores et femmes alanguies, couleurs chaudes, parfums de secret. Tout y est, vous dis-je, comme un écrin ou un écrou. Car on parle bien de cela quand on fait résonner en Europe ce mot presque magique de harem, cette mise sous écrou coloniale de femmes si belles et si distantes, vivant à l'ombre du despotisme oriental. Et pourtant, si vous lisez l'extraordinaire somme que Jocelyne Darlia vient de consacrer à harem et sultan, vous comprendrez que, je la cite, « tout est vrai et tout est faux dans ce fantasme ». Et si vous lisez la non moins extraordinaire monographie que Dominique de Fonréau consacre à Delacroix, vous apprendrez que ce maître de la couleur cherchait d'abord à se frayer un passage entre le rêve, le souvenir et la vérité intérieure. J'ai la chance de les recevoir toutes les deux au micro de France Culture, une historienne et une historienne de l'art, bientôt rejointe par notre sociétaire du jour, Hortense Bellotte, pour nous guider dans ce petit poème d'intérieur dont parlait Baudelaire, plein de repos et de silence, encombré de riches étoffes et de brimborions de toilette, car celui-ci, poursuivait-il, exhale je ne sais quel haut parfum de mauvais lieu qui nous guide assez vite vers les limbes insondées de la tristesse.
Delacroix ne peut pas peindre, il ne dresse pas son chevalet au milieu de la rue pour peindre, c'est une chose tout à fait impossible. En plus, l'islam interdit qu'on reproduise les visages, donc il ne lui est pas facile de peindre dans la rue. Et c'est à la sauvette qu'il rassemble les éléments. Il est doué d'une mémoire visuelle extraordinaire, donc bien souvent il prend des tout petits croquis qu'il remet et détaille le soir dans la maison du consulat. Et c'est une chose étonnante parce que il n'a pu faire que des croquis, des dessins, quelques encres et des aquarelles qu'il appliquait le soir sur les dessins. Et donc, il a déjà commencé à interpréter les choses.
C'était Maurice Arama au micro de France Inter en 1987, un historien de l'art, ancien directeur de l'école des beaux-arts de Casablanca. Je crois qu'il était né à Meknès. Dominique de Fonréau, bonjour.
Bonjour Patrick Boucheron.
Vous êtes historienne de l'art, conservatrice générale du patrimoine, actuellement chargée de mission auprès de la présidente du musée du Louvre. Vous avez dirigé le musée Delacroix jusqu'en 2018. Et d'ailleurs, en 2018, vous lui avez consacré, cette année-là, un magnifique ouvrage paru chez Cohen et Cohen. J'en parlais, Delacroix, la liberté d'être soi. L'image qu'on va regarder ensemble, pour vous, c'est d'abord ça. C'est un chemin vers la vérité intérieure.
Pour moi, c'est d'abord ça, c'est un rapport à la fois au souvenir, hein, comme le disait tout à l'heure Baudelaire dans vos propos, et effectivement un rapport à soi, à une manière intérieure de devenir l'artiste qu'il savait qu'il était.
Oui, dont on se souvient déjà, ça c'est ce que disait Maurice Arama. Jocelyne Darlia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, directrice d'études à l'EHESS. On vous doit aussi de superbes livres sur l'anthropologie historique de l'islam contemporain. Et vous publiez chez Anacharsis, éditeur héroïque, un ouvrage également somptueux et héroïque, moi je trouve, magnifique. Harem et sultan, genre et despotisme au Maroc et ailleurs, 14e, 20e siècle. Et là, vous vous affrontez à ce motif occidental, mais pas seulement, le harem.
Tout à fait, j'essaie d'en retracer la généalogie à travers une sorte de fresque historique et c'est là qu'on découvre que le harem, au moins dans ces contextes maghrébins, est une invention tardive.
Et vous dites justement que la période axiale, le moment où le harem accède à la visibilité occidentale, bah ça peut être ce tableau que nous avons sous les yeux. Alors on va commencer par le décrire. Hein, comme on fait, c'est un grand tableau, 1m80 sur 2m30, conservé au Louvre. Il a retrouvé sa place dans les Salons Rouges en 2022, après une campagne de restauration qui a relevé la peinture dans ce tableau. Et c'est ça qu'on admire d'abord, Dominique de Fonréau.
Hein, oui.
C'est le virtuose de la variation colorée.
Et lumineuse. Et lumineuse. Je trouve que, c'est vraiment ce qui est très frappant, c'est la manière dont les femmes semblent irradier elles-mêmes d'une forme de lumière. Il y a quelque chose de très très beau dans cette, notamment quand on voit la chair de la femme qui est juste un peu découverte, qui est à l'extrême gauche. On voit quelque chose qui est très lumineux, qui irradie de cette femme.
Alors il y a combien de femmes ?
Il y a 4 femmes en fait, 3 femmes qui sont assises dans des postures différentes. Hein. L'une est un peu alanguie sur un coussin, l'autre est assise en tailleur. La troisième est face à un narguilé qu'elle tient et elle a la main sur le genou. Et puis, il y a une femme de dos qui tourne un tout petit peu la tête. Et donc, il y a 4 femmes avec un rythme très beau de la position de ces femmes. Il y a quelque chose de tout à fait exceptionnel. On voit que ce lien-là, elles ne se parlent pas. Elles semblent chacune, d'une certaine manière, enfermées dans leur appartement ou dans leur intérieur, comme on a pu le dire parfois par rapport à ce tableau. Et en même temps, il y a quelque chose de très subtil dans le rythme qu'elle compose, puisque la jambe de celle qui est complètement à l'extrême gauche du tableau s'arrête au moment où démarre le genou de l'autre. Et de la même façon, elles sont aussi après épaule contre épaule. Il y a quelque chose d'une très, très grande subtilité.
Assia Djebar, dont on parlera tout à l'heure, disait que Delacroix avait gelé sur son tableau une conversation qu'elle va faire animer. Jocelyne Darlia, la quatrième, doit vous intéresser. Hein,
oui,
la femme noire.
Tout à fait.
Un bleu magnifique qui tourne le dos à la scène.
Oui, tout à fait. Il y a effectivement cette lumière qui vient d'une fenêtre sur la gauche et qui éclaire les trois femmes blanches. Donc il y a cette mise en relief de leur peau blanche. Et puis la seule femme qui est debout et qui tire une tenture qui dessine finalement une forme de séparation, c'est la femme noire qui est la femme au travail, qui est la domestique, peut-être l'esclave, dans cette période. La femme noire n'est pas du tout dans la même posture que ses maîtresses.
Elle est juste devant une inscription en arabe, qu'est-ce qu'on y lit ?
Alors, c'est une fausse inscription en arabe, comme il était fréquent dans ces tableaux. On a voulu y voir une formule coranique, mais c'est un jeu sur l'écriture qui était très fréquent depuis au moins les périodes médiévales.
Et qu'est-ce que vous reconnaissez comme historienne dans cet intérieur ? Alors, c'est clos, évidemment. Il y a quelques meubles, il y a des tapis, il y a un miroir.
Alors, c'est clos, mais il y a une fenêtre, donc c'est pas l'univers carcéral que dessinera la seconde version de ce tableau plus tardive, où la fenêtre sera supprimée. En tant qu'historienne, ce que je note, c'est par exemple les glaces de Venise, le cristal également, possiblement de Venise, les kilims. Et puis, c'est ce brasero, canoun, le narguilé, la pipe à eau. On sait que le tabac a été une consommation féminine, mais on ne sait pas s'il s'agit là d'une observation un peu ethnographique, si des femmes de cet âge et de ce milieu que tente de représenter Delacroix étaient effectivement consommatrices de tabac. En tout cas, il y a des objets qui effectivement sonnent juste.
Alors vous dites, Dominique de Fonréau, qu'il y a 3 femmes, mais ça pourrait pas être la même qui tourne.
Oui, c'est ce qu'on a envie de penser. Il y a un rythme tellement beau qu'on finalement on pourrait se dire c'est la même femme.
Un rythme sculptural.
Sculptural, en fait. Oui. Tout à fait, et un rythme qui est aussi inspiré de l'Antiquité, des frises antiques, d'une certaine manière, qui est là. Et c'est vrai qu'on pourrait tout à fait imaginer cela, que c'est la même femme qui tourne. Elles ont.
Maurice Arama, je crois d'ailleurs qu'on entendait, est plutôt favorable à cette hypothèse.
Oui, et puis c'est finalement aussi parfois l'interprétation qu'on en fait aussi ensuite d'autres artistes de ce rythme-là. Donc on peut tout à fait mais on peut tout à fait penser cela, ce qui renforce d'ailleurs cette idée d'intériorité, hein, de femmes d'Alger au pluriel, dans leur appartement ou dans leur intérieur, il y a quelque chose ici de très fort.
Peut-être dire aussi, pardon, que c'est un tableau de salon.
Oui, hein, ça c'est un point important.
Qui est destiné à faire valoir et à faire voir le talent.
Ça c'est un point important, c'est qu'on pourrait se dire que c'est un petit tableau. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un grand tableau. Les femmes d'Alger sont représentées aussi grandes que nature, et c'est un tableau de salon. Et le salon, à l'époque, est absolument essentiel pour les artistes, puisque c'est là où ils peuvent se faire voir, c'est là où ils peuvent effectivement attirer l'attention pour eux, et sur eux, pardon, et Delacroix le présente donc au salon de 1834. Et c'est jamais fortuit, c'est-à-dire cette décision de présenter à ce salon de 1834 ce tableau, alors qu'il est revenu du Maroc 2 ans auparavant, hein, puisqu'il y était en 1832, et évidemment une décision très forte. Hein.
C'est un tableau de genre qui se met à la dimension d'un tableau d'histoire.
Ou c'est un tableau d'histoire qui joue avec le genre. Les deux peuvent être dits, me semble-t-il, parce qu'il y a quand même, comme on le disait tout à l'heure, cette évocation aussi de cette composition très rythmée qui est issue de l'Antiquité et qui est toujours dans la pensée de Delacroix quand il pense au Maroc. Hein. Quand il arrive au Maroc, près des côtes marocaines, donc en janvier 1832, il dit « J'avais tellement rêvé de l'Orient et il était là ». Même si cet Orient n'est pas un Orient géographique, hein, c'est un Orient culturel, évidemment. Hein, on le sait bien pour le Maroc. Le Maroc est à l'ouest. Et finalement, quand il est là-bas, à plusieurs reprises, il dit « Mais c'est l'Antiquité que je rencontre. C'est l'Antiquité que je rencontre avec la dignité de ces hommes et de ces femmes qu'il croise, surtout des hommes, mais quelquefois aussi des femmes, avec la beauté des tissus. » qu'il fascine beaucoup, avec le goût des drapés. Et ici, on voit bien combien il a joué magnifiquement avec les tissus, avec une subtilité à la fois de motifs et de transparence et de richesse.
Alors le harem, on va en parler. Écoutons d'abord ce qu'en disait Hamza Boubaker, ancien recteur de la mosquée de Paris. C'était au micro de France Culture en 1970.
Harem, en arabe harim, vient d'une vieille racine arabe, harouma, qui signifie être sacré, être réservé, être respecté, dans un sens sociologique, c'est-à-dire le sacré opposé au profane. Donc le harem ou harim était à l'origine la partie de la demeure, maison ou tente réservée aux femmes, réservée à l'épouse et à sa domesticité. Le harem est une communauté qui comprend d'abord les épouses ou khadim, puis les concubines ou jawari. D'ailleurs, ces concubines, avant leur entrée dans les harems, recevaient une formation surtout artistique. Leurs conditions étaient celles d'esclaves, mais on les achetait sur les marchés des villes comme Bagdad, comme Damas, comme un peu plus tard à l'époque turque, Alger, Tombouctou pour les esclaves noirs, et l'Andalousie, Verdun en France pour les femmes blondes. Il y avait des centres célèbres pour leur marché d'esclaves.
Alors, Jocelyne Darlia, vous vous intéressez à l'anthropologie politique de l'islam, au miroir aussi de nos propres inquiétudes ou hantises. Ce qui vous intéresse dans le harem, c'est la manière dont, avec le concept de despotisme, l'un et l'autre capturent l'essence d'un Orient pensé, écrivez-vous, sous le signe d'un absolu monarchique et viril. C'est ça ?
Oui. C'est ça, c'est effectivement, il me semble qu'on ne peut pas penser le harem indépendamment de cet autre artefact occidental qu'est le despotisme. On a deux concepts qui sont très largement des projections sur un Orient plus ou moins imaginaire, ce qui ne veut pas dire que tout est faux, bien sûr, oui. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu de ces grands ensembles polygynes qui faisaient la puissance des monarques du monde islamique, ce qui ne veut pas dire que la notion de despotisme ait été totalement dépourvue de sens, mais il s'agit véritablement d'une construction et d'une projection. Preuve en est que les concepts mêmes, en réalité, n'existaient pas en tant que tels dans la langue arabe, d'usage.
C'est vous qui distinguez dans les trois volumes de ce livre, oui, le temps des gynécées, le temps des sérails et le temps des harems. Le mot harem, justement, il apparaît à l'orée du 19e siècle, en tout cas pour les Européens, dans un contexte maghrébin.
Donc, pour les Européens, mais dans la langue qui se parlait, dans les langues qui se parlaient alors au Maroc ou en Algérie, on ne parlait pas du harem pour évoquer l'espace privé d'une demeure, ni même un espace réservé aux femmes.
Et pourquoi vous avez écrit un livre aussi monumental, aussi gros ? Je comprends, en fait, à vous lire qu'il y a là un enjeu politique, c'est que vous devez, Jocelyne Darlia, recomposer l'ensemble de la matrice visuelle de cette identification entre harem et despotisme si importante pour disqualifier en fait l'histoire de l'islam contemporain et proposer, je vous cite, une alternative à l'orientalisme, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Il y a un verrou très très fort aujourd'hui pour penser les sociétés islamiques autrement que comme des sociétés bloquées sur le plan politique, bloquées sur le plan du genre et spécialement du rapport aux femmes et à la sexualité. Et on ne peut débloquer ce verrou, lever cet écrou finalement, qu'en repensant l'ensemble de l'histoire, c'est-à-dire en reprenant les mêmes éléments mais pour les mettre à plat autrement. Et je ne suis pas seule dans cette tâche. Je veux dire, il y a une vitalité de la recherche en cours, de la recherche récente sur le monde islamique qui va dans ce même sens.
Alors justement, Delacroix est un moment clé de cette histoire. Est-il pour autant un peintre orientaliste? Vous, Dominique de Fonréau, vous écrivez dans votre livre sur Delacroix que je citais, « Delacroix ne fut pas un peintre orientaliste, il recherchait la distorsion offerte par l'imagination à la mémoire, posait le filtre de la création picturale devant la description du Maroc. » C'est-à-dire que ça peut le devenir, mais c'est pas encore véritablement les canons de la peinture orientaliste de la seconde moitié du 19e siècle.
Oui, parce que notamment, c'est pas dans ce rapport, d'une certaine manière, d'une forme de réalisme qu'est l'orientalisme de la seconde moitié du 19e siècle, ni dans cette manière aussi d'être sur quelque chose qui fera des images qui pourront ensuite être appréciées et diffusées. Il y a là quelque chose chez Delacroix qui est éminemment personnel dans sa manière de l'entreprendre, éminemment singulière. Il a ici, d'une certaine manière, et il le dit lui-même, il s'approprie les images qu'il a vues quand il était donc en 1832 au Maroc. Et il les transforme au regard de ce qu'il vit aussi à ce moment-là à Paris, puisqu'on est là 2 ans plus tard, et il a écrit ensuite, à la fin des années 1840, dans un texte qui n'est paru ensuite qu'à la fin du XXe siècle, « Souvenir d'un voyage dans le Maroc », qu'il n'avait fait quelque chose de bien de cet épisode marocain que quand le temps avait passé et que quand la mémoire avait effacé des détails. Donc il y a vraiment, chez lui, cette manière de s'approprier des éléments, et en même temps, le Maroc est toujours là, puisque pour le dire, quand il fait les premiers décors de l'Assemblée nationale, il a aussi le Maroc en tête, ce qui est assez étonnant.
Mais vous l'avez dit, Jocelyne Darlia, 12 ans plus tard, lorsqu'il refait cette scène, qui s'appelle cette fois-ci « Les femmes d'Alger dans leur intérieur », eh bien, la scène est plus sombre, elle est plus claustrale et elle est plus hypersexualisée. Donc là, d'une certaine manière, l'orientalisme a fait son œuvre, si j'ose dire.
A fait son chemin, oui, tout à fait. Cette scène est plus mélancolique et véritablement la lumière n'est plus la même. Le tableau est beaucoup plus sombre. Il y a plus de distance entre les femmes. Et la domestique noire ou l'esclave noire est encore plus en dehors du tableau, comme si elle levait le rideau d'une scène théâtrale en s'apprêtant à en sortir. Mais dès 1833, Delacroix avait réalisé un dessin, exécuté un dessin du personnage de gauche qui était allongé avec les seins nus,
oui,
dans une posture typique, déjà, finalement, oui, du dessin de la femme prostituée. Enfin, véritablement, il y avait une touche orientaliste dans ce dessin qui n'est pas le propre de femmes d'Alger dans leur appartement.
Alors, pour comprendre ce passage, on vous a compris l'une et l'autre, il faut s'intéresser aux conditions du voyage. Commençons par écouter Alain Daguerre de Huro, c'était au micro d'Alain Weinstein en 1993.
L'Orient, c'est un voyage au Maroc qu'il fait en 1832, et ça va être un grand choc.
Ça va être un grand choc. Il faut savoir que l'Orient n'était pas une chose inconnue en 1830. Bien sûr, toutes les campagnes napoléoniennes avaient familiarisé le milieu intellectuel avec l'Orient. Une personnalité comme le comte de Forbin, par exemple, qui était directeur des musées royaux, avait lui-même été en Syrie et au Levant, on a rapporté un journal, des notes, des aquarelles également qui ont été reproduites. Donc Delacroix connaissait un peu l'Orient, la guerre d'indépendance grecque, avait là aussi familiarisé avec cet univers oriental, mais il est certain que la découverte sur le sol même, au Maroc, de l'Orient, a été une révélation. Mais pas la révélation qu'on pourrait attendre de prime abord. Ce qu'il y découvre, c'est la véritable antiquité. Pour lui, quand il croise des Arabes en tenue, il les compare à Caton, il les compare à Homère, il a l'impression de fouler le sol antique.
France Culture. Allons y voir. Patrick Boucheron.
Vous retrouvez Dominique de Fonréau, votre Delacroix, le lecteur d'Ovide, celui qui va chercher l'Antiquité au Maroc.
Oui, tout à fait, c'est lui-même qui le dit, hein. C'est ce qu'il écrit en fait à plusieurs de ses amis, hein, ce sentiment très fort, hein, de rencontrer là l'Antiquité. Et d'ailleurs, j'évoquais très brièvement tout à l'heure les premiers décors de l'Assemblée nationale, ceux du Salon du Roi, pour lequel Delacroix avait reçu une commande. Et il associe à la fois l'Antiquité et l'Orient, en souvenir du Maroc quelques années plus tard. Donc il y a vraiment cette dimension-là qui est très forte. Peut-être voulais-je juste dire par rapport à la comparaison des deux femmes d'Alger dont on parlait tout à l'heure qu'il faut avoir à l'esprit que le second tableau est un tableau de collectionneur qui est peint pour Alfred Bruyas, hein, le grand mécène de Montpellier, et que c'est un tableau de bien petite dimension. On n'est pas du tout dans la même chose.
Voilà. Alors que celui dont on parle, le tableau de salon, il a été d'ailleurs tout de suite acheté.
Il a été acheté par l'État.
C'est pour ça qu'on le retrouve au Louvre.
C'est pour ça qu'on le retrouve. Et donc c'est pour ça qu'il a été exposé au Luxembourg puis au Louvre, et effectivement c'est un tableau très important pour l'histoire de son temps.
Loin de moi l'idée d'opposer vos deux points de vue, l'historienne de l'art et l'historienne, mais pour vous, Jocelyne Darlia, ce voyage, il doit d'abord être rapporté entre janvier et juillet 1832 à la géopolitique, c'est-à-dire qu'il ne part pas comme ça à suivre sa curiosité, il a une mission de la Croix.
Bien sûr, il accompagne l'ambassade française, l'ambassade du duc de Mornay, ou du comte de Mornay, au Maroc. Et cette ambassade est destinée à rassurer le sultan sur les intentions pacifique de la France après la conquête d'Alger.
Donc c'est le sultan Abdelrahman, hein, c'est ça ?
Oui, Abdelrahman. Il s'agit de donner des assurances donc que la France n'a pas de visée conquérante au Maroc. Et la population marocaine est inquiète. Elle était inquiète également après l'expédition de Bonaparte. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Bonaparte prévoyait de conquérir le Maroc depuis Gibraltar. Et donc, après 1830, l'inquiétude est intense. Et lorsque l'ambassade française arrive au Maroc, il y a une hostilité marquée de la population, spécialement à Tanger. Et donc, Delacroix est aussi en but à cette attitude, disons, hostile d'une partie de la population, spécialement musulmane.
C'est-à-dire que derrière le Maroc, il y a la conquête de l'Algérie. Le Maroc et l'Algérie sont un peu interchangeable quand même dans cette conception orientaliste rêvée. Et d'ailleurs, Delacroix n'est pas nécessairement favorable à la conquête de l'Algérie, si on comprend bien.
Il a été choqué à Alger par la brutalité qu'il a constatée là-bas. On a pu effectivement considérer qu'il avait eu une position anti-coloniale. Moi, je pense qu'il se lamentait aussi de voir détruire une sorte de trésor culturel dont il a eu le sentiment très fort. Mais donc, Alger était à feu et à sang encore au moment où il y est passé. Il y est passé très rapidement, il n'y a passé que 3 jours. Et encore, Maurice Arama estime que si on regarde le livre de bord de la Perle où il logeait, donc le vaisseau, le bateau sur lequel il logeait, il n'est descendu à terre que très peu de temps.
Il passe,
Dominique donc, de
Fonréau. Il passe quelques mois au Maroc. Alors c'est vrai, et c'est important, en accompagnant une expédition diplomatique, ce qui est l'usage à l'époque, les peintres accompagnaient très souvent donc ces expéditions diplomatiques comme les savants. Il n'aurait pas dû partir, mais finalement l'invitation lui est faite parce qu'un autre peintre auparavant avait refusé. Et à la fois, il est dans ce contexte-là, mais il en est aussi très protégé parce que finalement, Mornel ne lui demande pas grand-chose et il est assez libre de ses faits et gestes. À Alger, il passe très peu de temps, finalement, puisque c'est essentiellement au Maroc qu'il passe du temps. Ils font quelques incursions en Espagne, aussi dans le sud de l'Espagne, qui l'intéressent beaucoup. Et donc, il y a cette affirmation qu'il aurait vu ce lieu, dont on n'est pas sûr qu'il l'ait vu réellement.
Le harem du pirate.
Le harem du pirate, du Raïs.
On en sait quelque chose de ce harem du pirate à Alger
dans ces années ? C'est pas grand-chose. Il y a plusieurs interprétations. Il aurait bénéficié de l'aide du capitaine du port, qu'il aurait mis en rapport avec un corsaire qu'il aurait introduit chez lui. D'autres commentateurs suggèrent de manière un peu insolente qu'il aurait été introduit en fait dans une maison close. Et puis il y a aussi l'hypothèse qu'une de ses anciennes élèves qu'il a retrouvée à Alger, Louise Babu, l'ait aidé finalement à entrer dans une maison et à voir des femmes d'un intérieur domestique.
Belle captive, Jérusalem de Verdi, 1847, par le chœur du Grand Orchestre de Genève et l'Orchestre de la Suisse romande, toujours en compagnie de Jocelyne Darlia et de Dominique de Fonréau, qui regardent l'une et l'autre les femmes d'Alger dans leur appartement de Delacroix, 1834, où finalement, pour se demander comment sortir du huis clos orientaliste. Alors, je continue à jouer, sinon l'opposition, du moins la complémentarité. Par exemple, pour vous, Jocelyne Darlia, en tant qu'historienne, si vous aviez à mettre ce tableau en diptyque avec un autre, tableau qui peint des femmes, est-ce que vous ne le metteriez pas en regard avec un autre tableau qui ne peint que des hommes ?
Ah oui, absolument, absolument. Pour moi, c'est un tableau qui fonctionne en diptyque, tout à fait, avec le célèbre tableau de Delacroix qui représente le sultan Abdelrahman.
Sortant de son palais de Meknès.
De son palais de Meknès, et il s'agissait initialement donc de l'audience de l'ambassade Mornay. Et ce qui est très frappant, c'est que en regardant aussi bien les croquis de Delacroix que ses notes concernant cet épisode de l'audience, des femmes étaient présentes au moment de la scène. Il les mentionne sur les remparts, il les mentionne dans les espaces adjacents. Or, elles ont totalement disparu de ce tableau où il n'y a que des hommes, et des hommes dans une très grande verticalité. Avec le sultan aussi qui est, comment dire, dont la verticalité est accentuée par son parasol. Initialement, dans les premières esquisses, c'était un soleil qui illuminait le sultan, mais là, il est dans une posture hiératique avec ce rappel de la tradition par le parasol.
D'autant plus intéressant, d'ailleurs, pardon, excusez-moi de vous couper, Jocelyne Darlia, qu'on accusait Moulay Abderrahmane d'être efféminé, en fait. Donc il y avait cette opposition genrée des deux tableaux, elle est vraiment très construite.
C'est ça, il est vraiment assigné au genre masculin, comme les femmes, elles, sont. On a la composition d'une scène purement féminine, ou comme certains commentateurs l'ont noté, le peintre s'est exclu, mais aussi le maître de maison qui l'a introduit s'est exclu. Et ces femmes, elles, sont dans une forme, faut le dire, d'horizontalité, et sont au sol, sont enfermées. Et donc il y a cette espèce de d'épure, finalement, d'une dichotomie genrée, d'une binarisation accrue des rôles genrés à travers ces deux tableaux, et c'est un point d'inflexion, c'est un tournant finalement dans la perception de ces sociétés au travers d'une ségrégation spatiale extrêmement poussée des hommes et des femmes.
Dominique de Fonréau, vous êtes commissaire d'une exposition Louvre-Lens, dont France Culture d'ailleurs est partenaire, Exil Regard d'Artiste. Vous y donnez à voir, c'est très intéressant, une série de tableaux de fleurs que Delacroix envoie au salon de 1849, un peu étonnante, avec parfois des têtes coupées, et c'est peut-être ça, je ne veux pas vous pousser dans vos retranchements, mais d'une certaine manière, quand on parlait de cette émission, vous disiez, bah oui, c'est à ça que je mettrais, avec ça que je mettrais en regard ces femmes d'Alger, étrangement, cette image un peu mélancolique, et sans doute même un peu désespérée quant au cours de l'histoire. Nous sommes après 1848.
Alors, il y a une distance entre ces tableaux de fleurs et les femmes d'Alger, il y a 15 ans. Donc 15 ans, c'est quand même relativement long dans la vie de Delacroix. Donc on ne peut pas immédiatement les comparer. Mais ce qu'il y a certainement de comparable, c'est ce rapport, comme le disait Baudelaire, hein, comme l'écrivait Baudelaire dans le Salon de 1846, ce rapport à la mélancolie et ce rapport à l'intériorité, me semble-t-il. Mais si on remet simplement ce que je voulais, avant de parler tout de suite des fleurs coupées, dire par rapport à ce tableau de 1834, c'est qu'il impose une vision de la femme représentée du point de vue oriental fondamentalement différente de celle de la grande odalisque d'Ingres, qui est à peu près la même taille, hein, et qui date du salon de 1819, qui a été présentée au salon de 1819. Donc il y a quelque chose là qui est vraiment d'une invention aussi moderne, d'une certaine manière, dans la composition et dans le rapport à l'Orient.
Comme est moderne la question du souvenir et de la vérité intérieure.
Et de la commémoration.
Qui naît de l'exil,
exactement. Et ce qui m'a intéressé en voulant inclure Delacroix dans cette exposition Exil, hein, Regard d'artiste, Exil au pluriel, c'est que je souhaitais aussi évoquer cette idée d'exil intérieur, et que Delacroix, donc bien des années plus tard, après les femmes d'Alger, donc après la révolution de 1848, a le sentiment d'une certaine manière de devoir se refermer en soi, de s'isoler, et il envoie au salon de 1849 des tableaux de fleurs. Et des tableaux de fleurs tout à fait étonnants, parce que c'est pas le genre, hein, la nature morte, c'est pas un genre auquel il s'est dédié. Et ces tableaux de fleurs sont certes en partie inspirés de la tradition française ou hollandaise, mais en même temps, ce sont des fleurs coupées, presque des têtes coupées, dans lesquelles il n'y a pas de vase, et qui sont des fleurs d'époque et de saison différentes. Donc il y a quelque chose aussi de presque un tout petit peu dérangeant, avec aussi cette très profonde mélancolie qui unit beaucoup la pensée de Delacroix, dont il ne faut pas oublier qu'en 1859, il représente Ovide, chez les Scythes.
Vous savez que le philosophe Mathieu Pot-Bonneville est directeur du département culture et création du centre Pompidou et qui nous envoie des cartes postales. Eh bien, celle qu'il vient de nous envoyer, il y est question de Baudelaire, pas de Charles, mais d'Éric Baudelaire.
Vous allez écrire un livre.
Un livre? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, ma carte postale du jour est un diptyque photographique. Même si je crains qu'avec ses dimensions, 2 mètres sur 3,75 mètres, il ne passe pas dans votre boîte aux lettres. Intitulé « The Dreadful Details », on doit cette œuvre à l'artiste contemporain Éric Baudelaire. Mais le nom de Delacroix vous vient vite à l'esprit. On a là affaire à ce que Delacroix nommait une grande machine, ample, composée, où des groupes de personnages prennent des poses expressives, et puis il y est question d'Orient. L'Orient représenté sur ces photographies n'est pas toutefois celui des femmes parées, des dignitaires, des riades et des tapis. C'est l'Irak, des années 2000, que nous reconnaissons. Au porche en arceau, sur le panneau de droite, répondent à gauche le béton noirci d'un immeuble incendié devant lequel un marine en casque lourd tient en joue une femme voilée serrant son bébé dans les bras. Une explosion vient d'avoir lieu, des corps gisent à terre. Un peu plus loin, d'autres soldats en uniforme couleur sable braquent leurs armes en tous sens. La force corrosive de cette œuvre a trait au fait que ces deux immenses clichés n'ont pas été réalisés sur place, en Irak. C'est à Hollywood qu'Éric Baudelaire s'est rendu sur un plateau dont le décor de ville bombardée servait alors au tournage de nombreuses fictions télévisuelles. Un Orient générique en somme, peuplé de modèles recrutés via une agence pourvoyeuse de figurants arabes pour ces mêmes séries. Et pourtant, on s'y croirait. L'œuvre vient ainsi, d'un même trait, interroger les conventions du documentaire de guerre et la tradition de la peinture d'atelier. C'est autre chose, pourtant, qui m'arrête aujourd'hui. Comme le souligne le philosophe Pierre Zawi, ce qui frappe dans cette œuvre intitulée « Détails terribles », c'est qu'à y regarder de près, les détails en question ont été délibérément gommés par l'artiste. Pas de sang, pas de mutilation, des poses qui s'arrêtent chaque fois au bord de l'atrocité, de sorte que c'est l'œil, l'habitude, la persistance rétinienne qui complète le geste et retrouve l'obscénité. Dans ce tableau à l'oriental s'introduit un trouble entre ce que l'on voit, ce que l'on ne voit pas et ce que l'on croit voir. Pour le dire autrement, Éric Baudelaire joue ici sur cette figure de rhétorique qu'on appelle la métonymie, vous savez, la partie pour le tout. Une femme en pleurs, un bébé, et nous voyons le reste, autant dire que nous cessons de regarder. La partie pour le tout. J'ai beaucoup repensé à cette œuvre en entendant la radio expliquer au premier jour de l'intervention israélienne au Liban qu'il s'agissait de bombarder, je cite, « des fiefs du Hezbollah ». Comme si cette partie excusait le tout, et même si de ce petit mot de « fief » tentait déjà de fuir des centaines de milliers de personnes déplacées. C'est le problème avec l'orientalisme, Patrick. Le réel s'y cache dans les détails.
France Culture. Allons-y voir. Patrick Boucheron.
Est-ce que l'orientalisme tient dans les détails ? Je n'ai commencé à faire quelque chose de passable dans mon voyage d'Afrique qu'au moment où j'ai oublié les petits détails pour ne me rappeler dans mes tableaux que du côté frappant et poétique. Jusque-là, j'étais poursuivi par l'amour de l'exactitude que le plus grand nombre prend pour la vérité, écrit Delacroix. Et pourtant, Dominique de Fonréau, vous qui avez été co-commissaire en 2014 d'une exposition au Louvre, Delacroix, objet dans la peinture, souvenir du Maroc, on en retrouve des cartouchières, des instruments de musique, des sabres dans ces tableaux. On peut même les identifier.
Oui, on en retrouve, mais il a, je crois, voulu rapporter ces objets du Maroc. Il a voulu absolument rapporter ces objets du Maroc pour en garder le souvenir. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il avait un coffre dans lequel il avait mis tous ces objets, à la fois des objets en cuir, de la céramique, des vêtements, enfin des babouches, différents éléments, mais qui est dans un grand coffre, qui dort toujours au musée de la Croix, un très beau coffre en bois. Et qu'il a gardé par devers soi et qu'il ouvrait sans doute de temps en temps.
Il se méfiait du Capharnaüm.
Oui, il se méfiait du Capharnaüm. Il n'avait pas envie du désordre, donc il voulait quelque chose qui soit rangé. Et en même temps, c'était là et ça ravivait sa mémoire. Et donc, ce que je trouve très intéressant chez Delacroix, c'est que, de ce point de vue-là, c'est vraiment quelqu'un qui ne prend pas l'objet comme quelque chose qui est insignifiant, comme le fait par exemple le cinéma, hein, dont on parlait à l'instant, ou comme le fait par exemple un artiste comme Jean-Léon Gérôme dans ses Peintres d'Orient, mais il prend l'objet comme la manière de quelque chose qui va lui permettre de tisser un fil, qui est un fil qui l'emmène dans sa peinture, et qui lui permet aussi d'avoir une forme de récit, parce que ce qui est très intéressant chez Delacroix et qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent, c'est toujours dans ce rapport à la littérature. Qu'est-ce qui fait récit? Qu'est-ce qui fait tableau? Et la capacité que l'on et l'autre genre, la littérature et la peinture, de pouvoir entrer dans cette narration qui est une narration qu'il porte souvent à son comble dans ses œuvres.
Alors c'est vrai qu'on retrouve, et ça a un intérêt documentaire, quelques-uns des objets qui peuvent aussi intéresser, vous l'avez dit, Jocelyne Darlia, l'historienne, quatre panneaux d'armoire, fonds peints au minium, arabesques de diverses couleurs, qui se retrouvent dans un inventaire, ils sont là sous nos yeux. Mais ce qu'on voit d'abord, c'est des femmes traitées également comme des objets. Et là, c'est la question, effectivement, qui nous intéresse, Jocelyne Darlia. Ces femmes sous verrou colonial, comme vous l'écrivez dans Harem et Sultan, on a longtemps voulu croire que ce n'était que des femmes juives. L'histoire de l'art a relancé ce préjugé. Et vous leur redonnez, sinon la parole, du moins leur identité et en tout cas leur pouvoir d'action, d'une certaine manière.
Oui, bien sûr, ces tableaux sont en un sens des co-constructions et ces modèles ou leurs proches participaient à cette co-construction, fournissaient des tissus par exemple, fournissaient des objets. Et pour ce qui concerne leur identification, c'est vrai qu'il y a eu un long préjugé, en tout cas on a longtemps pensé qu'il ne pouvait s'agir que de femmes juives, parce que les musulmans, étant fanatiques ou étant très jaloux de leurs femmes, refusaient qu'elles soient peintes, ou parce que l'islam interdisait la reproduction figurée, et donc il ne pouvait pas s'agir de musulmanes. En fait, des croquis ou des aquarelles laissées par Delacroix et annotées par lui portent très clairement des noms qui sont des noms musulmans.
Mouné Ben Sultan, Zera Ben Sultan.
Voilà, Toubouji, qui sonne turc par surcroît. Et donc, on a des raisons de penser que des musulmanes ont posé pour lui, que ce soit à Alger ou plus probablement au Maroc. Au Maroc, d'ailleurs, il mentionne des petites domestiques ou des femmes au service du consulat qui ont posé pour lui et avec l'aide de la femme du vice-consul de l'époque. Et donc, il est assuré qu'il a eu des modèles musulmans et musulmanes et pas seulement juifs. Mais même pour les modèles juifs, je pense que ce qui explique qu'elles soient plus nombreuses, ces modèles juives, ce n'est pas une plus grande ouverture culturelle des milieux juifs en général. C'est plutôt le fait qu'il y avait toute une orbite, finalement, de courtiers juifs, d'interprètes, etc., qui travaillaient pour les consulats, et donc qui étaient quasiment obligés, finalement, de se mettre à disposition du peintre ou obligés de l'inviter pour des cérémonies et d'ouvrir leur maison.
Et au-delà, ce qui vous intéresse, j'y reviens, Jocelyne Darlia, dans ce livre, une alternative à l'orientalisme, c'est de montrer ce que les historiennes et les historiens appellent parfois du nom d'auto-orientalisme, c'est-à-dire la participation des populations, de toutes ces populations, à ce regard qui n'est pas seulement occidental.
Oui, effectivement, je parlais tout à l'heure de co-construction. J'essaye de montrer, par exemple, à quel point au siècle suivant, pardon, plus tard dans le 19e siècle, les peintres Clairin et Regnault ont bénéficié finalement de l'aide d'une de leurs modèles, Chama, qui amenait quantité de jeunes filles avec elle pour poser pour les peintres. Et donc, il y a une forme de... bien sûr, on peut dire c'est un rapport mercenaire, mais c'est aussi une forme de co-élaboration de l'orientalisme, puisqu'elle elle procurait également de divers petits objets, et elle participait à la mise en scène des tableaux véritablement.
Et si on écoutait Brigitte Fontaine, c'est toujours bien ça, Harem, 2009.
Couverte de joyaux couchés sur le satin, dans les harems royaux nus en baumant jasmin, musc et santal mêlés ondulant parmi l'or et les corps emmêlés, elles attendent leur sort. Dans les bains parfumés, têtant le narguilé, elles aiment à donner aux femmes d'à côté, aux castrats presque entiers, leur beau corps de poupée. Il faut bien s'amuser quand on est prisonnier. Mais lorsque le maître arrive, on oublie les dérives, on se métamorphose en statue d'onyx rose. Sur la moire et l'hermine, dans les vapeurs d'opium, ces traîtresses coquines débouchent des magnums. Et leur débauche fume dans les murs de porphyre. Cependant qu'elle hume l'ambre chaud et la myrrhe. Mandarine pelée se sent martyre et fille. Lisant Sophocle et Pline, Sade et Catabiacine. Entre deux jouissances défendues aux esclaves, dans les joies de l'enfance, les plaisirs de l'entrave. Mais lorsque le maître arrive, on oublie les dérives, on se métamorphose en statue d'onyx rose. Odalisque qui rit dans la rose des vents, bagnardes et houris au jeu de lutte savant, grelots et fers aux pieds sous le riz des étés, entre sabre et épée, tel est le mausolée.
Hortense Bellotte, bonjour.
Bonjour Patrick Boucheron.
Les auditrices et les auditeurs de notre émission commencent à vous connaître. Pour vous, une image en appelle une autre, et les femmes d'Alger de Delacroix, d'autres femmes d'Alger.
Les autres femmes d'Alger, c'est le sujet que j'ai décidé d'explorer pour cette petite chronique. Des titres qui ont été réutilisés au XXe siècle. Alors je voudrais parler d'un livre, un film, une toile, une œuvre de street art et une grande question.
Et alors on y va.
On commence tout de suite 1980 avec Assia Djebbar qui publie « Femmes d'Alger dans leur appartement », un recueil de nouvelles dans lequel elle fait le portrait intime de plusieurs femmes algériennes des années 50 aux années 70. Assia Djebbar, elle est née en 1936 en Algérie, morte en 2015 à Paris. Et c'est la première femme écrivaine née en Afrique du Nord à faire son entrée à l'Académie française en 2005. On l'écoute tout de suite dans cette interview des années 90.
La culture traditionnelle des femmes, bon, qui m'a marquée quand même dans mon enfance, et qui a fait que dans mon rapport à la littérature les premières années, j'avais une sorte de grand écart intérieur à faire. je rentrais dans les littératures un peu les yeux bandés, les fermés. Et ça, ça vient du fait que dans notre culture, y compris cette culture andalouse, la norme, la valeur, c'est de ne pas parler de soi, c'est de parler en lieu commun. Et brusquement, vous commencez à écrire et vous voyez que vous écrivez sur votre personne et sur votre vie, même si c'est d'il y a 5 ans ou d'il y a 10 ans. Alors c'est comme si je, non seulement j'étais nue, c'est-à-dire sans voile, mais c'est comme si j'étais nue de l'intérieur. Donc j'étais vulnérable. Et au fond, j'aimerais bien passer inaperçu, j'aimerais bien que dans mon texte, ça soit comme si c'était 20 Algériennes qui mêlaient leur voix. C'est ça ma vraie ambition.
Assia Djebbar, c'est un peu notre Averroès ici en France, l'inquiétante étrangère du dehors-dedans, pour reprendre le titre du dernier livre de Jean-Baptiste Brenet, professeur de philosophie arabe à la Sorbonne. Car chez Djebbar, le jeu cartésien frôle souvent le sapance d'Averroès au profit d'une voix collective. Et elle propose un autre rapport à l'existence, à l'histoire et aussi à la politisation des affects. Selon l'écrivaine et sociologue Kawtar Archi, l'œuvre de Djebbar explore dans un premier temps les schémas psychologiques qui régissent les conduites des personnages principaux, puis progressivement, elle va se déplacer autour du thème de la communauté. Et sa pratique littéraire, comme le résume Archi, vise à valoriser la participation des femmes algériennes à la guerre de libération, d'une part, et à dénoncer leur subordination à l'ordre patriarcal, d'autre part.
Bonjour, c'est Hammam aujourd'hui, comme d'habitude, comme tous les jeudis. Hammam, c'est sur Al-Chaîne 3 et c'est une rencontre pour vous les femmes, par vous les femmes et avec vous les femmes. Au sommaire d'aujourd'hui, un portrait de Madame Bouzard qui a milité pendant la guerre de libération et qui milite aujourd'hui pour que des femmes puissent vivre dans la joie, dans la sérénité.
Tous les jours je mène un combat, tous les jours je sors quelqu'un dans la rue, tous les jours je lui sauve la vie à une sœur qui est en détresse. Et ça, je l'ai toujours fait. Et je continuerai de le faire. Et personne ne m'empêchera de le faire. Et si on m'empêche de le faire, je prendrai les armes pour défendre ce droit à l'identité algérienne, à l'identité de femme algérienne.
C'est de 11h à midi. Et avant de commencer le reportage et d'écouter la première partie de l'émission, je vous propose d'écouter une chanson.
En 1992, Kamal Dehan réalise un documentaire intitulé « Les femmes d'Alger », dans lequel on entend entre autres Assia Djebbar, mais pas que, comme en témoigne cet extrait radiophonique que nous venons d'écouter. Kamal Dehan est un réalisateur belgo-algérien né en 1954, qui a réalisé entre autres tout un tas de documentaires, notamment sur Kateb Yassine, autre grand auteur algérien de langue française, qui après avoir vécu les massacres de Sétif et de Guelma en 1945, affirme dans les années 50 son besoin d'expliquer en français aux Français le fait que l'Algérie n'est pas française. Message plus ou moins bien entendu, puisque entre 1954 et 1955, alors que la guerre d'indépendance de l'Algérie vient d'apparaître aux yeux de l'opinion publique hexagonale avec la Toussaint Rouge du 1er novembre 1954 et la première série d'attentats revendiqués par le FLN, Pablo Picasso nous offre ses « Femmes d'Alger » en hommage, dit-il, à Delacroix. Alors dans son œuvre, Picasso réactualise non seulement un imaginaire orientaliste, mais va bien plus loin, en faisant disparaître les visages et les vêtements de plusieurs d'entre elles, réduisant les trois figures féminines à la plus misogyne des métonymies classiques, des seins, des chattes et des culs. Alors, évidemment, l'objectivation du corps des femmes et des femmes étrangères en particulier a longtemps été une convention esthétique, mais on est obligé de se dire que tous les artistes ne l'ont pas exploité avec la même ferveur que Pablo Picasso. Et son œuvre témoigne d'ailleurs moins d'une relecture de Delacroix que de son obsession patrimoniale, qui va être la sienne dans les années 1950, où, se sentant un petit peu vieillir, il va déployer tout son talent à préparer sa postérité et son intégration au Boys Club des grands maîtres de la peinture classique. Au-delà des questions stylistiques relatives à l'art moderne, la pratique de l'hommage par Picasso lui permet surtout d'articuler une vision de l'histoire de l'art et de l'art en général qui n'a rien d'anodine et à laquelle nous n'adhérons pas vraiment, autant le dire, mais qui semble faire consensus, si bien qu'en 2015,
il aura fallu à peine plus de 11 minutes pour solder une vente à plus de 160 millions d'euros. It's yours, so. Le vendeur et l'acheteur sont tous deux restés anonymes. Cette toile de Picasso, Les Femmes d'Alger, avait déjà été vendue chez Christie's en 1997 pour 28 millions d'euros. Son prix a aujourd'hui quintuplé. Jamais un tableau vendu aux enchères n'avait atteint une telle somme jusqu'à ce jour. Cette huile de Picasso fait partie d'une série de 15 toiles, avec chacune une lettre allant de A à O. Il s'agit ici du dernier tableau, Les Femmes d'Alger, version O. Inspiré d'une œuvre de Delacroix, il a été réalisé en 1955 en hommage au peintre Henri Matisse, décédé un an plus tôt.
Eh bien, lorsqu'en 2015, cette toile de Picasso est vendue aux enchères à un acheteur anonyme, mais qu'on sait aujourd'hui être certainement un membre de la famille royale qatari, la street artiste française Kashink peint une fresque urbaine monumentale à Paris dans laquelle elle reproduit à la bombe l'œuvre de Picasso, qu'elle encadre de deux visages, de ces personnages typiques aux quatre yeux surmontés de bulles de bande dessinée évoquant les dollars, les fesses et les seins. L'enjeu était, dit-elle pour elle, d'interroger le passant avec une question assez simple. Qu'est-ce que ça dit de nous, de notre rapport à l'art et de notre humanité tout entière ? Lorsque l'œuvre la plus chère du monde, c'est ça. Eh bien, dit-elle, ça ne dit pas la même chose qu'un triptyque angoissé de Bacon. Et à l'heure où notre humanité tout entière est mise à mal dans notre rapport au corps et aux vies arabes en l'occurrence, la question mérite plus que jamais d'être reposée.
Merci Hortense Bellotte. Comment rebondir, Dominique de Fonréau, pour vous, 1954, puisqu'on peut aller de Delacroix à Picasso, cet hommage à Delacroix et à Matisse. Alors évidemment, c'est le début de la guerre d'indépendance, mais c'est aussi la mort de Matisse. Donc l'histoire de l'art, elle a aussi à faire avec ces contextes-là.
Oui, bien sûr, les deux. Hein, ce qui a été dit par rapport à la Toussaint Rouge est tout à fait juste. Mais c'est vrai que Matisse meurt à ce moment-là et que cette rivalité sous-jacente Matisse-Picasso a toujours été un peu là, bien sûr. Hein, et que les deux sont, d'une certaine manière, doivent à Delacroix. Et doivent à Delacroix, moins seulement sur les motifs, qu'aussi comme la posture d'artiste. Hein, il y a quelque chose chez Delacroix de très fort, de l'affirmation de soi. C'est un artiste qui a toujours choisi lui-même ses sujets, qui ne s'est pas fait imposer très tôt, qui n'est pas entré à l'école des Beaux-Arts, n'a pas passé le prix de Rome. Donc il y a aussi cette appropriation de cette posture. Alors après, à la manière de Picasso. Mais je pense que c'est intéressant aussi de tisser ces histoires-là, de l'histoire de l'art.
Et vous, Jocelyne Darlia, par rapport à ce qu'on a entendu d'Hortense Bellotte et justement de la suite, au fond, que donnent les peintres à cette orientalisme naissant sous le pinceau de Delacroix. Il y a aussi pour vous, aujourd'hui, des peintures qui littéralement vous tombent des yeux. Enfin, vous avez essayé, tenté de faire, oui, je l'ai dit, la matrice visuelle de tout ça, mais parfois c'est difficile de soutenir le regard.
Tout à fait. Il y a une vibration orientaliste qui nous habite. Et ce que j'ai voulu faire assez largement, c'est proposer une contre-proposition en visuel, enfin, donner à voir une autre iconographie au fil du temps et remettre en quelque sorte l'orientalisme à sa juste place. Orientaliste, c'est pas toujours un gros mot. Enfin, je remercie absolument Hortense Bellotte pour ce texte, cette chronique qui m'a fait vibrer, je dois dire. Il ne s'agit pas d'avoir une posture anti-orientaliste braquée en quelque sorte, mais véritablement de remettre cette production dans son cadre historique, dans son contexte, sans la laisser continuer de nous atteindre et sans la laisser continuer d'obscurcir nos regards.
Et signalons d'ailleurs que dans l'exposition Exil au Louvre, Lens est donné à voir Les Femmes d'Alger, un triptyque de Jamel Tata peint en 1996 dans un autre contexte, celui évidemment des années noires d'Algérie, où là on reprend la composition de la croix, mais on la vide de tout exotisme et on ne laisse qu'un cœur frontal de femmes. Merci beaucoup Dominique de Fonréau, merci Hortense Bellotte, merci à vous Jocelyne Darlia. C'était Allons-y voir. Toutes les références de vos parutions sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Sophie-Catherine Gallet et Anouk Minaudier, à la prise de son Clara Galivelle et à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous.